Les Voix de service magazine, mercredi 13 juin 2018. Bonjour tout le monde, je m'appelle Isabelle Falardeau et comme chaque mercredi, ou presque, je suis avec vous pour la prochaine heure. Une heure consacrée à la lecture d'articles de magazines et plus souvent de journaux, dépendant des sujets qu'on couvre. Alors, de mon côté, je vais vous parler comme d'habitude des Premières Nations. J'ai plusieurs nouvelles, des doctorats honorifiques pour deux personnes autochtones exceptionnelles, les problèmes pour faire valoir les droits des itinérantes autochtones et comment les drones peuvent aider des autochtones de l'Amazonie à faire valoir leurs droits.
Ah!
Oui, alors on s'en va un peu partout dans les sujets et sur la planète. Et quant à vous, Daniel?
Eh bien, je vais vous parler de sujets qui concernent la musique, comme
Daniel
d'habitude.
Lachance, bien
oui,
sûr,
bonjour,
pour
bonjour.
Ne pas vous nommer.
En première partie, je vais vous parler d'une chanteuse française qui a fait au beau jour des années 80 avec son groupe.
Ah!
Qui est encore très pertinente aujourd'hui, je pense, et qui était au Francofolie hier. Je vous la nomme tantôt.
Très hâte d'entendre ça.
Et en deuxième partie, je vais vous parler de Prince.
Ah oui, bon, on finit toujours par parler
ouais,
de Prince,
ouais,
on dirait.
Hein, incontournable. Et aussi d'un vieux bluesman qu'on n'avait pas entendu parler depuis un petit bout de temps, Buddy Guy, qui va sortir un nouvel album bientôt.
Excellent, j'ai hâte d'entendre ça. Alors, je vais tout de suite vous amener à l'Université d'Ottawa. C'est la Gazette d'Université d'Ottawa, c'est là que j'ai trouvé mon article. Deux Autochtones qui font une différence. C'est un article signé Laura Darche et Linda Scales et qui a été publié le 8 juin dernier. Alors, l'Université d'Ottawa décerne un doctorat honorifique à 9 personnes exceptionnelles pour leur réalisation extraordinaire à sa collation des grades du printemps 2018. Deux Autochtones, soit Cindy Blackstock, défenseur des droits des enfants, et Stanley Volant, un chirurgien qui encourage les jeunes Autochtones à réaliser leurs rêves, sont au nombre des récipiendaires. Cindy, Blackstock, on la connaît moins ici au Québec que Stanley Volant, puisque lui, il est québécois. Alors, la célèbre défenseur des droits des enfants des Premières Nations ne craint pas de se battre au nom de la justice et de l'équité. En 2007, l'Assemblée des Premières Nations et Cindy Blackstock, à titre de directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, accusant le gouvernement fédéral de discrimination à l'égard des enfants autochtones en raison du sous-financement des services de protection de l'enfance dans les réserves. 9 ans plus tard, heureusement que ce n'était pas urgent, en janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné au gouvernement de mettre fin à la discrimination raciale envers les enfants en réformant son système et en augmentant le financement des services. Cette décision a été considérée comme une décision historique pour les droits de la personne. Cindy Blackstock, qui est membre de la Première Nation Jixan, je m'excuse, je n'ai pas trouvé comment le prononcer, mais je vous l'appelle au cas où vous voudriez en avoir le cœur net, Gitxsan, a commencé sa carrière dans le domaine de la protection de l'enfance et des droits des enfants autochtones il y a une trentaine d'années, alors qu'elle était agente provinciale de la protection de l'enfance à Vancouver. C'est à cette époque qu'elle s'est rendue compte de la discrimination envers les services d'aide à l'enfance des Premières Nations et que de nombreux jeunes autochtones étaient envoyés dans des familles d'accueil souvent non-autochtones. On en a souvent parlé ici à l'émission, malheureusement. Elle a rédigé sa thèse de doctorat sur le système canadien de protection de l'enfance et a obtenu des diplômes de maîtrise en gestion et en jurisprudence. À toutes les audiences du tribunal, Cindy Blackstock apportait un ourson en peluche blanc, Spirit Bear, que lui avait donné le conseil tribal Carrier Sekani, et qui est devenu un important symbole de la réconciliation. L'article est accompagné d'une photo de Spirit Bear. Alors, il porte un vêtement traditionnel, c'est-à-dire avec des broderies, avec des perles, là, comme on voit souvent. Le petit ourson, oui, il a des beaux mocassins
assez
faits à la main.
Quand même.
Voilà, il représente bien les nations autochtones. Alors, il l'accompagnait donc toujours. Par ce geste, elle voulait que l'ourson puisse témoigner au nom des 165 000 enfants des Premières Nations touchés par l'affaire des services de protection de l'enfance. En 2017, elle a copublié « Spirit Bear et les enfants passent à l'histoire », un livre qui sert à informer les enfants sur l'affaire des services de protection de l'enfance et à affirmer leur rôle dans le mouvement de réconciliation. La décision du tribunal n'a pas freiné Cindy Blackstock dans son élan pour défendre la cause des enfants autochtones. On espère, parce que bon, là, ça a pris 9 ans, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mis en place. Alors, elle continue donc de défendre la cause des enfants autochtones du Canada et de leurs familles. En février 2018, le tribunal a rendu 4 ordonnances de non-conformité, d'ailleurs, contre le gouvernement fédéral. Cependant, au début d'avril, la ministre des Services aux Autochtones a mentionné que le gouvernement s'était conformé à toutes les ordonnances et qu'il travaillait avec le tribunal pour le confirmer. « Mettons ça derrière nous », a déclaré Cindy Blackstock à la radio anglaise de Radio-Canada. « Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, donnons aux enfants autochtones le même niveau de service qu'à tous les autres enfants. »
Ça serait juste normal, hein?
Ben ouais, c'est ça. Et Stanley Volant, comme je dis, on le connaît un peu plus parce qu'il est Québécois. Vers la fin des années 2000, Stanley Volant est un modèle de réussite. Premier autochtone à devenir chirurgien au Québec, il est reconnu dans le milieu pour ses idées novatrices, impliqué dans de nombreux comités et associations dans les domaines de la médecine et de la santé, lauréat de plusieurs prix et mentions. Tout semble parfait. Pourtant, il éprouve de grandes souffrances personnelles et échappe de près au suicide. Comme quoi, même quand on réussit
bien... Quand ça a l'air beau, hein, il y a toujours...
Il entreprend alors une démarche spirituelle avec Innu Meshkenu, le chemin Innu, une grande marche de 6000 km à travers les territoires des communautés autochtones du Québec, qui le mènera sur les traces de ses ancêtres.
Un genre de Compostelle.
De Compostelle, ouais, Innu, hein? On pourrait dire ça peut-être. Ce périple, c'est un peu plus long quand même, 6000 km, là,
ouais,
que
Compostelle. Faut pas être pressé.
Non. Divisé en plusieurs étapes, donc, lui a permis de rencontrer les jeunes de ces communautés et de leur parler de l'importance des saines habitudes de vie, de l'identité et de la poursuite de ses rêves. Pour y arriver, il invite les jeunes à placer leurs aspirations dans son bâton de marche qu'il nomme « Bâton des 1000 rêves ». Avec ce projet, qui l'a fait connaître du grand public, Stanley Volant s'est engagé à s'investir dans l'amélioration des conditions de vie et la reconstruction des siens. Et ses efforts portent fruit. On a constaté une baisse de l'utilisation de drogue, d'alcool et de tabac, ainsi qu'une perte de poids chez ceux qui ont participé à Innu Meshkenu. Des clubs de marche et des projets d'expédition en raquette ou en canot ont aussi vu le jour dans les communautés visées. Cet engagement de celui qui a été le premier directeur du programme autochtone de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa a également pris une forme très concrète avec des mini-écoles de médecine. Conscient du déséquilibre entre l'état de santé des communautés autochtones et leur accès aux professionnels de la santé par rapport au reste de la population canadienne, Stanley Volant, accompagné d'étudiants en médecine de l'Université de Montréal, visite des écoles secondaires autochtones pour donner le goût aux jeunes de faire carrière dans le domaine de la santé. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça donne un exemple concret aux enfants, ça leur montre que c'est possible
c'est
pour
possible
eux.
C'est possible pour eux, effectivement.
Et souvent, c'est ça qui nous freine, c'est qu'on se dit que
c'est pas pour nous
c'est,
ouais, ce genre de profession.
Là. Alors, c'est vraiment une belle initiative. Ce type d'activité de recrutement ciblé a été repris par d'autres universités, notamment par notre faculté de médecine, on parle de l'Université d'Ottawa, qui reçoit des groupes d'élèves autochtones sur le campus depuis 2010 avec « Venez marcher dans nos mocassins ». Daniel, à votre tour.
Oui, oui, un article que j'ai trouvé dans la presse plus d'hier, section art, un article de Alain Brunet qui s'intitule « Senior, j'adore ». Est-ce que ça date,
mais
ça
j'avoue,
vous
le titre m'a intrigué. Non, je ne suis pas allé voir de quoi okay. Il s'agissait. J'attends que vous m'en informiez.
Artiste d'éclat et d'extravagance, femme de tous les paroxysmes, indomptable fauve de la scène et du studio, Catherine Ringer. Botte et fait remuer les popotins depuis bientôt 4 décennies.
Wow,
quand même, hein?
C'est vrai.
qui, toutes ces années durant, aurait imaginé l'ex-figure de proue d'Erita Mitsuko devenir sexagénaire.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'elle pouvait vieillir,
non,
mais...
Non, non, mais ça date quand même,
échappe,
hein? Les années 80, ça fait un petit bout de temps. La principale intéressée, elle, le visualise très bien. La vie post-Mitsuko se poursuit bellement. La chanteuse française prévoit nous en faire l'éloquente démonstration. « Senior, j'adore », dixite la chanson « Space Rock », première au programme de son plus récent opus. Tenons-nous le pour dit. Il n'y a pas moyen de dire
ouais,
ça autrement.
Ils l'ont pas lu à haute voix avant de choisir le titre, je pense.
Bon, tenons-nous le pour dit. Une fois que c'est fait,
c'est
plus facile.
Vous avez brisé la glace.
J'aurais dû le pratiquer avant, hein, c'est ça. On se souviendra néanmoins que la mort de Fred Chichin d'un cancer foudroyant en novembre 2007 avait été une perte immense pour sa compagne et mère de leurs trois enfants. Catherine Ringer avait beaucoup souffert avant de se reprendre en main et de se relancer dans la profession. Album solo Ring and Roll en 2011, interprète du projet Tango Plaza Francia en 2014, album solo Chronique et Fantaisie en 2017 et l'on ne compte pas les tournées. Lorsque je suis sur scène, dit-elle, je vois beaucoup de gens heureux. Je vois leurs yeux qui brillent. Ils ont l'air touchés. Ils me demandent de continuer. Je me sens donc encore utile et j'essaie de continuer de l'être en faisant ce que je fais depuis longtemps, mais aussi en prenant les risques qui me semblent indispensables pour avancer. Il faut rester vivant, éveillé, ne pas s'encrouter. Écouter des choses nouvelles comme de la techno, même si je n'en fais pas personnellement. Évoluer jusqu'au bout de la route, pense-t-elle néanmoins, exige un certain discernement. Il me faut juste être dans ma manière d'être. Par exemple, je dois m'adapter à ce que je peux faire maintenant sur scène. Il me faut savoir bouger et chanter différemment. C'est quand même une réalité à laquelle
oui,
on échappe pas.
Oui, effectivement, il faut s'adapter.
Je pense avoir fait des progrès en chant, mais je ne fais plus les mêmes acrobaties en spectacle. C'est moins athlétique, plus concentré. Qu'on ne s'y méprenne pas, l'énergie de Catherine Ringer reste débordante, mais plus sage, différemment canalisée. C'est moins tonitruant. Sur scène, on fait en sorte que l'auditeur puisse mieux écouter plutôt que subir un son très fort. On ne balance plus ces basses qui font vibrer le corps jusqu'aux entrailles ou encore ces accords de guitare qui érigent des murs de décibels. On essaie d'évoluer vers un son plus précis et moins violent dans le volume. Ça, c'est vrai, par exemple. Quand on va à un concert rock, plus ça va, plus le son est élevé et plus surtout, c'est les basses. Aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, les subs, c'est incroyable.
Depuis 1987.
Je peux comprendre que des concerts plus techno, rock,
ça, mais...
c'est peut-être le son que ça prend, mais à un moment donné, quand tu veux entendre tous les instruments, ça prend un peu plus de...
Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui se compare à écouter un disque avec nos écouteurs pour vraiment avoir
entendre
toute la subtilité
tous les instruments, effectivement. Donc, en studio, comment a-t-elle abordé Chronique et Fantaisie? Les styles, ils sont variés. Comova est latino-rock. D'ailleurs, ça ressemble pas mal au titre d'une chanson de Santana, Oye Como.
Oye Como.
Et d'autres chansons s'inspirent de mes racines européennes. Je pense à Leur amour ou Sourire d'automne. On passe ainsi d'un univers à l'autre, comme j'ai toujours aimé le faire avec les Mitsuko. Or, cet album-là est de facture assez classique par rapport à ce que j'ai fait avant. Les thèmes abordés y sont généralement privés, mais elles traitent aussi de sujets vastes, tient-elle à souligner. Obstination décrit le dilemme entre partir ou rester dans un pays traversant une situation difficile. Sur Senior, je réfléchis sur le fait d'avancer en âge, évoluer, se connaître soi-même. C'est un thème universel et non la petite histoire d'une personne en particulier. Pour ses deux premiers albums solo lancés depuis 2011, Catherine Ringer a été la compositrice principale et regrette encore les rapports créatifs très inspirés avec son défunt compagnon. Je crée des musiques plus simples que ce que je pouvais faire, que ce que je pouvais accomplir avec Fred, pense-t-elle. Même si j'étais à la base de riffs, de suites d'accords ou de mélodies, il amenait énormément à la musique des Mitsuko. Ce que je fais aujourd'hui n'a pas cette teneur car je n'ai plus cet échange musical qui nous menait vers des univers plus grands, plus complexes. Nous avions aussi eu raison de travailler avec des réalisateurs étrangers, authentiques, joailliers du son. Tony Visconti, pour citer cet exemple, fut pour nous un artisan merveilleux du son et de l'arrangement. Il pouvait nous mener plus loin que ce que nous étions capables de faire. La simplicité actuelle ne serait donc pas complètement volontaire, quoique satisfaisante en fin de compte. Quand c'est moi qui travaille toute seule, ou même lorsque mon collègue Azedine Djellil propose des arrangements, des rythmiques et autres compléments de réalisation, ça reste moins large. Mais c'est peut-être davantage au service de ma voix. À l'avenir d'ailleurs, peut-être ne referai-je pas les choses seul. Je pense à plusieurs collaborateurs, mais j'attends que ça se fasse avant d'en parler. Cela dit, j'y suis quand même arrivé. Le public n'a pas l'air de s'ennuyer. Mon travail a été utile à quelque chose. Chronique et fantaisie, prévoit-elle en outre, ne sera pas le seul plat servi au banquet montréalais des Franco. Ce sera un mélange d'anciens et de nouveaux. Nous ferons 5 ou 6 chansons de cet album, une ou deux de Ring and Roll, une reprise de bande originale et il y aura aussi des titres d'Erita Mitsuko, bien entendu. Sinon, je pense que les fans seraient un peu déçus.
Oui.
Ce sont quand même mes chansons et ma vie. Même si Fred est mort et que notre groupe n'existe plus, même si nous sommes à une autre époque, ça me fait plaisir de les chanter. La pérennité d'une chanson, conclut l'irrésistible sexagénaire, dépasse celle de celui ou celle qui l'a conçue. Lorsqu'elle est inscrite sur partition, une bande magnétique ou un support magnétique, une chanson vit à partir du moment où quelqu'un l'écoute. Et c'était malheureusement soir au Théâtre Maisonneuve. On va sûrement avoir critiques éventuellement qu'on va pouvoir lire.
Je sais pas, mais en tout cas, après l'œuf, j'étais poussin, c'était bien. Je passais cadet, c'était la vie et me voilà. Et alors, Seigneur, c'est comment?
Seigneur? J'adore.
Le jeu avance. Ce sont là de très bons niveaux, toujours intenses, sans bagno. Quand la partie dure, je la joue plus apaisée. Señor.
gosse. J'adore.
Première pièce du plus récent extrait de Catherine Ringer qui s'intitule Senior. La pièce s'intitule Senior, l'album Chronique et Fantaisie.
Vraiment, on reconnaît la voix.
Oui, puis c'est vrai, je trouve que sa voix, c'est quand même...
Moi, j'avoue que j'ai pas trop suivi depuis la fin d'Erita Mitsuko, la carrière solo, mais on reconnaît le son, mais sans que ça soit évidemment la même chose. Non, ça me plaît bien. Et puis, je vous amène complètement ailleurs. Je ne parle pas de seniors, mais plutôt de jeunes femmes. La difficile quête de justice des femmes autochtones sans abri. C'est un article qui a été publié sur le site Espace Autochtone le 1er juin. Signaler une agression sexuelle s'avère être un parcours du combattant pour bien des femmes autochtones vivant à Montréal. Le système de justice ne leur rend pas la vie facile et aurait besoin de s'adapter aux besoins de cette communauté. Jessica Quijano, j'ai décidé de le prononcer, en fait, je devrais dire Quijano, parce que je ne sais pas c'est quoi sa nationalité. Elle travaille avec les femmes autochtones, est-ce que c'est donc j'ose pas le prononcer en espagnol? Ouais. Alors, Jessica Quijano entend en moyenne 2 à 3 plaintes pour violence à caractère sexuel chaque semaine dans le cadre de son travail de coordonnatrice du projet Iskiweu, I-S-K-W-E-U, pour femmes en langue Innu, en langue Cri, pardon, ça va bien mon affaire. Ça doit être la chaleur. Alors, le projet pour femmes en langue crie du foyer pour femmes autochtones de Montréal. Devant une justice qui leur est imposée, ces femmes sont particulièrement vulnérables et finissent par ne pas recevoir un traitement équitable, constate Mme Quijano. Plusieurs raisons incitent ces victimes à garder le silence. La plupart vivent dans l'ouest de la ville, particulièrement les Inuits installés aux environs du square Cabot ou Cabot. Est-ce qu'on dit Cabot? On va dire Cabot.
On va dire Cabot.
Mais lorsqu'une personne dépose... Est-ce que je me suis posé la question
en
lisant...
C'est dans l'ouest, on devrait dire Cabot.
Mais c'est ça. Mais on dirait à chaque fois que je le lisais dans ma tête à l'anglais, ça marchait pas. Mais lorsqu'une personne dépose une plainte pour agression sexuelle à Montréal, et ça, je trouve que c'est un problème pas seulement pour les femmes autochtones, elle doit se rendre au quartier général des enquêtes spécialisées de la police de Montréal situé à la place Versailles dans l'est de la ville, soit à une dizaine de kilomètres de là du square Cabot. Donc oui, c'est un problème pour ces femmes-là, mais c'est un problème si on habite dans l'ouest, faut qu'on aille. Ça me semble un peu bizarre, vraiment, pour dire le moins. Alors, plusieurs raisons... excusez-moi. Donc, si elle s'y rend, donc la femme qui veut porter plainte, elle rencontre le personnel de l'unité des agressions sexuelles à qui elle raconte, devant la caméra, les détails de son agression. Une étape essentielle qui permettra d'intenter des poursuites. Autre obstacle de taille, la langue. Beaucoup de femmes autochtones parlent l'inuktitut, certaines l'anglais comme langue seconde, précise Jessica Quijano, et la place Versailles est située dans un quartier à majorité francophone. Voyager à l'est du métro Atwater jusqu'à Radisson, dans l'est de la ville, constitue une barrière pour les victimes, dit Mme Quijano, qui mentionne aussi les problèmes de toxicomanie de plusieurs des bénéficiaires du foyer pour femmes autochtones de Montréal. Celles-ci doivent être sobres lorsqu'elles témoignent. Et même si elles vivent dans la rue, ces femmes doivent travailler pour survivre. Je travaille avec des personnes qui ont besoin de survivre et prendre quelques heures de leur journée pour aller à la place Versailles signifie qu'elles ne pourront pas gagner d'argent pendant cette période, ajoute la coordonnatrice du projet Iskiweu. Alors, Mme Quijano souhaite que le service de police de la ville de Montréal, le SPVM, ouvre un bureau près du Square Cabot pour permettre aux victimes de rencontrer des enquêteurs spécialisés et de témoigner. Le SPVM dit être ouvert au changement, particulièrement en ce qui concerne les procédures d'enquête, mais aussi afin que les victimes n'aient plus à se rendre à la station de la place Versailles. L'agent de liaison autochtone au service de police de la ville de Montréal, donc toujours le SPVM, Carlo De Angelis, mentionne qu'une réunion est prévue la semaine prochaine pour en discuter. Donc, ça doit déjà avoir eu lieu puisque l'article date, en tout cas, on le souhaite, l'article date du 1er juin. Nous sommes conscients de cette situation, c'est pourquoi nous avons organisé cette réunion. Le message que je veux envoyer, c'est que si vous êtes une victime, nous serons là pour vous. Votre rapport, nous le prendrons au sérieux. Le constable De Angelis ajoute que lorsqu'une victime déposera une plainte, les policiers iront à sa rencontre où qu'elle se trouve.
C'est peut-être ça la solution, au moins d'aller la chercher si c'est loin.
Que ce soit dans un abri ou au coin d'une rue. Ils s'assureront qu'elle est hors de danger et la conduiront à l'hôpital pour y effectuer un examen médico-légal si nécessaire. Pour Carlo De Angelis, il est primordial que les victimes ne soient pas dissuadées de déposer leur plainte. Et c'était un texte de Kate McKenna. Les nouveaux arrivants rencontrent les Premières Nations. C'est un article que j'avais dans mes poches depuis le 28 mai, toujours sur Espace autochtone. L'intégration des nouveaux arrivants passe aussi par la connaissance des nations autochtones. C'est ce principe que met en pratique l'École Saint-Henri de Montréal, qui amène des enfants de toutes origines pour rencontrer les premiers habitants de ce pays. Pour la plupart des nouveaux arrivants établis à Montréal, les occasions d'aller à la rencontre des peuples autochtones du pays sont rares, je dirais pour la plupart des habitants. Mm-hmm. Mais dans le cas des nouveaux arrivants, nombre d'entre eux ne sont même jamais sortis de la métropole. Alors disons que le problème est amplifié. Le but de ces voyages dans des communautés autochtones au Québec est de briser les préjugés. Lorsque vous ne connaissez pas certaines choses, vous commencez à raconter des histoires. C'est alors que vous commencez à développer du racisme, affirme Lisa Sévigny de l'école Winnebeku à Waskaganish. Les étudiants qui prennent part au voyage deviennent des agents de changement. Ces mêmes jeunes n'hésitent pas à remettre en question d'autres élèves qui, très souvent, en raison de leur méconnaissance, véhiculent des préjugés sur les Autochtones. La meilleure façon de briser les préjugés est de rencontrer et d'apprendre à connaître d'autres gens, explique Véronique Ledoux, qui a aidé à organiser un voyage similaire l'an passé dans la communauté Innu de Pessamit sur la rive nord du Saint-Laurent. Lors de leur voyage dans les communautés autochtones, les élèves immigrants apprennent en quoi consistaient les pensionnats autochtones, mais aussi les traditions et les coutumes locales. Ils apprennent entre autres comment préparer des mets traditionnels ou expérimenter la tente de sudation. Ils peuvent même profiter d'un spectacle d'aurore boréale en compagnie d'adolescents de la communauté qu'ils visitent lorsque le temps le permet. Lorsqu'ils étaient à Waskaganish, dans la baie James, au Québec, ils ont eu un cours de base sur les syllabiques cris avec Lucy Trapper, une enseignante à l'école Winnebeku. Aloysius Chan est fière des nouvelles compétences acquises en syllabiques cris lors de son séjour dans la communauté cris de Waskaganish. Le jeune homme de 16 ans, qui a immigré de la Malaisie à Montréal il y a à peine un an et demi, porte maintenant un macaron avec son nom en cris dans les couloirs de son école secondaire de Saint-Henri, Montréal. Et c'est ce qui met fin à la première partie de notre émission. On se retrouve après une courte pause.
Thank you.
Extrait de l'album 1999 qui, très étonnamment, n'est pas paru en 1999. C'est donc une parution de 1982. Prince et la pièce Little Red Corvette.
Ah, et je me demande bien de qui vous allez nous parler, Daniel.
Ben, ça me donne le goût de parler de
Prince. Parlez-nous de Prince, allez-y.
Oui. Un article que j'ai trouvé dans le Rolling Stone magazine. Prince Piano and Microphone 1983, un nouvel album.
J'espère que vous allez nous traduire l'article. C'est pas le titre de l'article, ça.
Ouais, ben. Piano et Microphone 1983.
C'était dans le Rolling Stone, ouais. Donc je comprends.
Donc, Prince Estate, qui est dans le fond la succession de Prince.
Ouais, ouais,
tout vous traduire
merci.
À mesure. Ouais. Prince Estate et Warner Brothers Records, la compagnie de disques Warner. Frères ont officialisé la sortie d'un album rempli d'inédits du musicien, Piano et Microphone 1983, pour la rentrée. Prince aurait eu 60 ans aujourd'hui, mais ça c'est à la date de la parution de l'article qui était le 7 juin, donc il aurait 60 ans et 6 jours aujourd'hui.
Donc il avait le même âge que Madame Catherine,
c'est une bonne cuvée.
Oui.
Tandis que nous vous présentions récemment sa toute dernière interview, ça c'est Rolling Stone qui dit ça, c'est pas moi, Prince Estate et Warner l'honorent d'une autre manière, en levant le voile sur un nouvel album posthume intitulé Piano and Microphone 1983, qui arrive dans les bacs le 21 septembre prochain. Vous voyez, je vous l'annonce longtemps à l'avance.
Oui, on a le temps de se préparer.
Ça va avoir le temps de faire une réservation. Une voix, un piano, 9 titres, 35 minutes immortalisées et nées au cœur de l'home studio du musicien, Kiowa Trail, situé dans la ville de Chanhassen au Minnesota. Je sais, vous allez me dire, son studio, ça n'avait pas s'appeler Purple Rain ou non, Paisley Park plutôt.
Oui, oui, il me semblait.
Mais ça, c'était avant Paisley Park.
Ah,
j'ai fait une petite recherche et Prince a déménagé à cet endroit. Et demeuré là de 1981 à 1985. Et c'est le studio où il a enregistré la pièce qu'on a entendue avant. Donc l'album
1989,
et l'autre qui a suivi aussi, Purple Rain, ont été enregistrés là. Ça, c'était avant qu'il s'en aille au Paisley Park.
On en apprend toujours beaucoup avec vous, Daniel.
J'essaie de faire des recherches. Je ne sais pas si c'est bon ce que je trouve, mais au moins je vous raconte ce que je trouve. Cet album brut et intimiste, enregistré alors que Prince s'apprêtait à connaître un succès mondial, est similaire au format de la tournée Piano and Microphone qui a conclu sa carrière en 2016, explique Troy Carter, conseiller membre du Prince Estate. L'Estate est heureux de donner aux fans un aperçu de l'évolution de Prince et de montrer de quelle manière sa carrière a finalement effectué une boucle en s'achevant avec lui seul à son piano. Parce qu'on se rappelle les dernières tournées qu'il faisait. Quand il venait à Montréal, c'était pas très longtemps avant son décès. Il avait annoncé genre 3 jours à l'avance qu'il venait à jouer. Puis c'était lui seul au piano, là. C'était pas avec un band.
Ah, c'est vrai.
Un extrait exclusif, Mary Don't You Weep, est déjà disponible à l'écoute sur les plateformes de streaming. C'est d'ailleurs une reprise d'un célèbre titre gospel daté du 19e siècle et figurant au générique du nouveau film de Spike Lee, Black, il y a bien des cas là-dedans. Black Klansman, sacré grand prix au Festival de Cannes de 2018.
Ah oui.
Masterisé par Don Batts, l'album s'offre une pochette réalisée par le photographe Alan Beaulieu, ancien collaborateur de Prince entre 1979 et 1984, à qui on doit notamment les clichés de la promotion de l'album 1999, sorti en 1982, comme l'a mentionné Jean-Sébastien tantôt. Cet album est, à partir d'aujourd'hui, disponible en précommande en CD vinyle et édition de luxe CD plus vinyle, qui inclut un livret avec des photos inédites et des notes rédigées par Batts, ainsi qu'en version digitale. Et voici la tracklist de Piano et Microphone 1983 qui est attendue pour le 21 septembre. 17 Days, que je ne connais pas, je ne sais pas de quel album c'est tiré. Ah. Pardon. Purple Rain, que tout le monde connaît. Ouais. A Case of You. Mary Don't You Weep, Strange Relationship, International Lover, Wednesday, il y a plusieurs titres là-dedans qui ne me disent pas grand-chose, Cold Coffee and Cocaine et Why the Butterflies. Alors voilà.
Why the Butterflies?
Ouais.
Why the Butterflies?
Pourquoi les papillons?
Pourquoi les papillons ou pourquoi le beurre vole? Non, c'est pas.
Ah non!
c'est comme ça, je l'avais entendu. Mais c'est non, c'est pas ça.
C'est en un seul mot. Donc,
okay, pourquoi, d'accord. Merci.
Pourquoi le beurre vole?
Je voulais préciser, juste pour être certaine. Eh bien, moi, je vous l'avais promis, je vous emmène en Amazonie. Des autochtones d'Amazonie protègent leurs terres grâce à un drone. C'est un article que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada et qui a été publié le 9 juin, non signé. Des autochtones de l'Amazonie ont récemment réussi à bloquer la construction d'une route illégale sur leurs terres en accumulant des preuves vidéo à l'aide d'un drone, rapporte le magazine américain Fast Company. C'est l'an dernier que les résidents de communautés situées entre la ville de Yurimaguas et le village de Lagunas, dans le nord du Pérou, ces résidents ont constaté que l'aménagement d'une nouvelle route sur des terres qui leur appartiennent avait débuté. Tout portait à croire qu'une entreprise avait pris cette initiative sans se préoccuper des règles. Ils ont vite appris qu'effectivement, le gouvernement péruvien n'avait pas autorisé la construction de cette route. Si celui-ci l'avait fait, il aurait d'abord dû lancer une consultation auprès d'eux, membres des collectivités touchées. Ils auraient alors pu exprimer leurs inquiétudes. Pour les Autochtones de l'Amazonie, la construction d'une nouvelle route veut souvent dire qu'une compagnie minière ou forestière s'apprête à s'installer dans leur région pour en moissonner les ressources naturelles. Et les impacts sur l'environnement peuvent être dévastateurs. Depuis une quinzaine d'années, l'Amazonie péruvienne a vu disparaître 2 millions d'hectares de forêt. Ça, ça fait beaucoup de terrain de football. Mm-hmm. L'eau est de plus en plus polluée et le sol s'assèche. Cette fois-ci, la route était aménagée par une grande société produisant de l'huile de palme. Mais le fardeau de la preuve incombait aux plaignants. Ils devaient démontrer aux autorités de Lima qu'une route était bel et bien en construction. Ce n'est qu'à ce moment que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre un terme aux travaux. Avec l'aide financière d'Oxfam, l'Association interethnique pour le développement de la forêt pluviale péruvienne, que nous nommerons à partir de maintenant EDCEP, un groupe de défense des droits des Autochtones basé à Lima, a lancé au-dessus des territoires des communautés lésées un drone équipé d'une caméra vidéo. L'appareil leur a permis, au cours des derniers mois, de documenter les changements qui survenaient sur leur terre et de fournir des données de localisation précises et fiables. Les leaders des communautés avaient maintenant en main les preuves nécessaires qu'ils ont montrées à des agences gouvernementales. Et comme ils l'espéraient, ça a mené à l'arrêt des travaux, a expliqué Waldir Eulogio Asania, représentant de l'EDCEP à Fast Company. Le programme de drones d'Oxfam n'est encore qu'un projet pilote, a indiqué Neil McCarthy, administrateur au sein de l'organisation. L'EDCEP, qui représente plus d'une centaine de collectivités, a reçu environ 25 000 $ d'Oxfam pour acquérir le drone et enseigner aux leaders de différentes communautés amazoniennes à l'utiliser. Ce premier drone que nous avons financé, c'était en fait une expérience, mais maintenant que l'expérience a fonctionné, il faut se demander comment faire évoluer le programme. C'est Neil McCarthy d'Oxfam qui le dit. L'EDCEP avait précédemment eu bien du mal à documenter les cas de violation de droits fonciers. Le gouvernement ne se contentait pas des déclarations de témoins. Et même les photos géolocalisées captées par des téléphones intelligents ne suffisaient pas car elles pouvaient avoir été trafiquées ou manipulées. Nos gens ont réalisé que les preuves qu'ils apportaient étaient toujours remises en question, a relaté Neil McCarthy. Ce que les drones permettent de faire, c'est de présenter des images continues, sans montage, partant d'un endroit de référence connu et se déplaçant vers le lieu de l'infraction qu'on souhaite documenter. Ce sont des données assez inattaquables, a souligné M. McCarthy.
Un article que j'ai trouvé aussi dans Rolling Stone magazine, Buddy Guy, Keith Richards et Jeff Beck. Petite jam autour d'un cognac.
On est toujours dans les seniors, là.
Oui, là, on parle vraiment de seniors. Un nouvel extrait du prochain album de Guy sent très, très fort le blues et ça sent très bon. En enrôlant deux des 100 plus grands guitaristes, ça c'est d'après Rolling Stone, c'est pas d'après moi.
Merci de le préciser.
Ils ont peut-être raison, là, mais quand même, c'est d'après eux. Buddy Guy crée peut-être l'un des maelstroms blues les plus puissants de 2018. Sur le troisième extrait de son futur album, The Blues is Alive and Well, le musicien de la Louisiane invite quelques potes à boire un verre et accessoirement à jouer de la musique. Keith Richards...
Est-ce qu'ils boivent le verre avant ou après avoir joué la musique?
J'ai l'impression que ça pourrait que ça soit avant, pendant et après. Ah, c'est des préjugés qu'on a.
Non, mais parce que ça peut avoir une influence. Le son peut être plus smooth si on a bu verres avant ou.
Ça peut être plus relax.
Dépendant du nombre de verres.
Quelques verres de trop, ça peut être un peu croche.
C'est ça. La ligne est mince, mais.
Donc, Keith Richards, éminent membre des Rolling Stones, et Jeff Beck, légendaire guitariste ayant fait ses armes auprès d'un petit groupe de l'époque appelé les Yardbirds. Muddy n'est plus là pour boire avec moi, mais j'ai Keith Richards. Il fait allusion ici à Muddy Waters, qui est, dans le fond, c'est un drôle de nom. Là, Muddy Waters,
oui,
ça se traduirait par
eau boueuse.
Son vrai nom, c'est McKinley Morganfield, un vieux bluesman qui a influencé plein de monde. On a dit que le blues était mort. Qui a dit que le blues était mort en 2018? Dans Cognac, Buddy Guy parle de femmes, du passé et d'un de ses compagnons de bouteille parti trop tôt, Muddy Waters, tout simplement. C'est ce qu'il explique juste avant le solo de Richards, venu soutenir son vieux copain, légende vivante du blues américain. Et Beck, alors, à toi de jouer maintenant, scande Guy juste avant le solo du troisième et dernier artiste à composer ce trio. The Blues is Alive and Well, prochain album de Buddy Guy, sortira le 15 juin prochain, donc c'est dans deux jours. On commençait à le découvrir avec les deux premiers extraits dévoilés, Nine Below Zero et Blue No More, enregistrés avec James B. Mais c'est un autre Rolling Stone qui viendra composer l'impressionnant panel du disque, puisque Mick Jagger viendra prêter sa voix sur le titre « You Did the Crime ». Donc, on peut voir que c'est quelqu'un qui veut se donner des chances de vendre son album. Je trouve que c'est un très bon moyen d'inviter des noms comme ça.
Effectivement.
Mais il faut dire une chose, les Rolling Stones, quand ils ont débuté surtout, c'est des grands amateurs de blues. des amateurs de
Donc
Muddy
c'est
Waters.
En quelque sorte un retour aux sources.
Effectivement,
pour eux.
Souvent ils ont joué, même quand ils ont fait des tournées américaines, ils engageaient des vieux bluesmen pour faire leur première partie.
Ah,
parce
d'accord.
que ces gars-là, souvent, ils n'étaient plus vraiment au goût du jour, eux les encourageaient de cette façon-là.
Ah, c'est bien, quand même.
Donc, une amitié de longue date entre lui et le groupe anglais capturé par Martin Scorsese dans son documentaire Shine a Light, sorti en 2005. Tandis que Buddy Guy était venu interpréter Champagne and Reefer, titre original signé par son copain Muddy Waters. Donc, le blues, une grande famille qui tient bon.
Difficile pour les Autochtones d'écrire dans leur langue. C'est un autre article que je gardais dans ma manche, un texte de Cécile Gladel, paru sur Espace Autochtone et publié le 10 mai. Peu d'écrivains autochtones écrivent dans leur langue. La majorité utilise l'anglais ou le français pour au moins deux raisons. Certains auteurs ne parlent pas leur langue maternelle et l'accessibilité de leurs œuvres serait diminuée si elle était publiée dans cette langue. C'est pour rendre leurs livres accessibles au plus grand nombre qu'ils écrivent en anglais ou en français. De plus, beaucoup d'écrivains autochtones ne parlent pas comme moi leur langue, explique l'écrivaine innu Marie-André Gill. À sa connaissance, seules Joséphine Bacon et Rita Mistococho, excusez-moi, ça m'a fait penser à Rita Mistococho.
Ben oui.
C'est les mêmes consonnes. Alors, seules Joséphine Bacon et Rita Mistococho écrivent des poèmes en deux langues, innu et française. Elle souligne que plusieurs communautés utilisent leur langue à l'oral et moins à l'écrit. Dans mon livre, Béante, j'ai utilisé des mots innu qui avaient une signification pour moi. Il est vrai que les jeunes parlent moins les langues autochtones que leurs aînés, mais la tendance semble vouloir s'inverser ces dernières années. Quand on va dans les communautés, les aînés parlent la langue qu'ils ont apprise très tôt. À l'âge adulte, ils n'osaient pas car il fallait parler français ou anglais. C'est Éric Mathieu, linguiste et professeur à l'Université d'Ottawa, qui nous le dit. Par curiosité, le linguiste spécialisé en langue algonquienne a justement demandé à un jeune pourquoi il ne parlait pas l'Ojibwé. Il m'a répondu que ce n'était pas l'Ojibwé qui allait lui trouver du travail. L'autre problème est l'utilisation de mots d'autres langues, qui fait que certains mots se perdent. Ça me fait beaucoup rire. Le mot « ordinateur » a été inventé en Atikamekw, mais ça prend une minute à le prononcer. Oui, parce que dans les langues autochtones, souvent,
ça
on
décrit,
parle...
Ouais.
C'est la chose qui fait qu'on peut écrire, qu'on peut... Bref, ça, on le mentionne pas ici dans l'article, mais ça m'a fait rire parce que souvent, quand on essaie de traduire les choses en français, c'est ça qui arrive aussi par rapport à l'anglais, mais là, c'est comme une couche de plus. Alors donc, comme le mot prend une minute à prononcer, les jeunes utilisent le mot français. Qui prend
pas
trois
bête,
secondes.
Finalement.
Ben, c'est ça. Alors, ça, c'est l'auteur Étienne Poirier qui raconte ça. C'est lui qui a enseigné le français aux jeunes de Manawan pendant 10 ans. Cette popularité des langues autochtones se voit dans l'affluence des cours en cri et en Ojibwé offerts à l'Université d'Ottawa. L'université se doit de rendre ces langues le plus visibles. On a aussi de plus en plus de conférences sur les langues autochtones, selon Éric Mathieu. Il raconte que les aînés autochtones ont une grande connaissance de leur langue, surtout sur le plan de la grammaire. J'ai travaillé avec des gens qui avaient enseigné, trois aînés, qui discutaient ensemble de principes de grammaire. C'était fascinant. Elles avaient des connaissances incroyables. Malheureusement, depuis sa rencontre, deux de ses aînées sont mortes. Heureusement, le professeur avait enregistré la discussion. D'entrée de jeu, Éric Mathieu souligne qu'en général, la traduction, pardon, ne reproduit jamais le même sentiment que l'original. La traduction, c'est un art. Il ajoute qu'historiquement, les langues autochtones sont plus orales qu'écrites. Les grammairiens ont essayé de rapprocher les langues autochtones de ce qu'ils connaissaient, mais ce n'était pas approprié. D'ailleurs, l'auteur Étienne Poirier a eu de la difficulté à traduire le sens d'une phrase en Atikamekw dans son livre « Niska ». Ce roman jeunesse parle des pensionnats autochtones et aborde la difficulté des relations père-fils. À la toute fin de la vie du père, le garçon revient et lui dit « Je t'avais dit que je reviendrais ». En Atikamekw, la phrase s'écrit ainsi « Ki wapiten ka ititan kata pe takoan ». Je ne pouvais pas la traduire si simplement. J'ai passé 30 minutes avec deux personnes à expliquer le contexte pour trouver une phrase qui aurait une connotation plus large que de parler de la présence physique de la personne dans la pièce. En Atikamekw, le sens était plus dans la spiritualité. Dans l'histoire, cette phrase était fondamentale pour moi. Il était donc important que ça soit écrit en Atikamekw, précise-t-il. Celui qui a enseigné le français pendant plusieurs années à de jeunes autochtones ajoute que la signification des mots et la manière de les traduire étaient parmi les discussions qu'il avait le plus souvent avec ses élèves. On mentionnait en fin d'article que l'écrivaine Naomi Fontaine représentait les territoires autochtones pour le combat des livres 2018, le combat national des livres, et elle avait choisi de défendre le roman « Lignes brisées » de l'auteur métisse Katerina Vermette, qui écrit en anglais. Katerina Vermette, qui est de père ménonite et de père métisse. J'avoue que j'ai pas suivi la fin, mais je sais que ce livre-là avait été éliminé en cours de route. Là, c'est pas lui qui a gagné, mais le combat des livres. Mais ça, le fait qu'il soit présent là, ça a quand même donné de la visibilité. Et Naomi Fontaine l'a très bien défendu. Voilà, merci beaucoup.
Toujours ma tournée de Rolling Stone magazine, un autre vieux de la vieille, ça m'a surpris un peu. Nick Mason, ça vous dit quelque chose?
Écoutez, ma culture musicale est très mauvaise, alors non, ça me dit rien.
Nick Mason...
Moi, je connais Perry Mason, mais c'était un enquêteur, non, c'était un avocat.
Ça me dit quelque chose, c'était une série américaine.
Une série américaine, oui.
Nick Mason, membre fondateur de Pink Floyd, prépare un coffret dédié à sa carrière solo. Moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout...
D'apprendre qu'il y avait eu une carrière solo.
Oui, absolument. Non, c'est même pas une farce. Là. Quand j'ai vu ça, il faut que je le lise parce que je comprenais pas. Baptisé Unattended Luggage, bagage...
Laissé sans surveillance.
Oui, inattendu, je crois.
Il comprendra... Parce que unattended, c'est ça, c'est quand on nous pose la question, c'est quand on remarque des bagages qui sont sans surveillance.
Ça peut être un colis suspect.
C'est ça,
finalement.
Un colis suspect. Oui, ça pourrait être un bagage suspect.
C'est bon en français, un colis suspect.
Ouais, ouais.
Il comprendra notamment le tout premier album solo du célèbre batteur. En fait, oui, c'est ça, c'était le batteur de Pink Floyd.
Ah, ben c'est pour ça hein, qu'on a.
Voilà. Batteur et membre fondateur de Pink Floyd, Nick Mason s'apprête à ressortir ses 3 albums solo au travers d'un coffret.
Il a quand même fait 3 albums, hein, mais peut-être qu'il y a eu une célébrité locale, ça s'est peut-être rendu aussi loin que Pink Floyd, qui a vraiment été international.
C'est sûr que les deux plus connus de Pink Floyd, c'est David Gilmour et Roger Waters, qui ont fait les albums solo, mais le batteur, on connaît moins sa carrière. Donc, disponible dès le 31 août prochain, avant celui de Prince.
Donc, vous êtes encore une fois un peu à l'avance, mais un petit peu moins.
Via Warner Music. Le coffret est d'ores et déjà disponible à la précommande en version 3 CD ou 3 vinyles. Il comprendra le premier album solo sorti en 1981, Nick Mason's Fictitious Sports Profiles, ça se dit mal ça, et paru en 1985, et White of the Eye, Blanc des yeux en français.
Mm-hmm. Ouais.
Bande originale du film du même nom, sorti en 1987. Le tout sera, bien entendu, également disponible en téléchargement ainsi qu'en streaming. Ces enregistrements tiennent une place toute particulière dans ma carrière, a commenté Mason. En les réécoutant après ces 30 drôles d'années, je suis ravi qu'ils soient de nouveau mis à disposition. Et j'espère aussi que ces rééditions en profiteront pour faire décoter les premières éditions vinyles. Drôle de terme, décoté, mais ce que je comprends, c'est qu'il veut dire que ces rééditions remasterisées, ça va sonner mieux que les premières.
Ah, d'accord.
Mason avait enregistré Fictitious Sports en 1979, mais l'album n'était paru que 2 ans après. Un album sur lequel le batteur avait collaboré avec plusieurs autres musiciens, dont le claviériste et auteur Carla Bley, ou encore le chanteur Robert Wyatt. Mason rappelle que ses 2 autres projets avec Fan, Profiles et White of the Eye étaient venus en parallèle de leurs travaux dans la publicité et les documentaires. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faisait de la musique pour des documentaires et des publicités. Mm. Profiles devint un projet quasi instrumental, seulement trahi par la présence de Maggie Riley et l'ex-compagnon de route de Mason, période Pink Floyd, David Gilmour, le guitariste, sur le titre « Lie for a Lie ». De son côté, le claviériste de l'espace, Danny Peyronel, y chante le titre « Israel ». Pour ce qui est de « White of the Eye », il s'agit de la première fois en 20 ans que l'album est disponible. Donc, celui-là, c'est normal qu'on ne le connaissait pas.
Oui, ça faisait 20 ans qu'il était bon. Il était juste sur vinyle, puis il n'y en avait plus qui était en vente, peut-être.
« Unattended Luggage » comprendra d'ailleurs sa première version au format CD. Nick Mason profite de l'annonce pour dévoiler les dates d'une tournée européenne accompagnée de son nouveau groupe, Nick Mason's Saucerful of Secrets. Saucerful of Secrets, c'était le titre, le premier ou deuxième album de Pink Floyd, je pense.
Ah, d'accord.
Dont une date à l'Olympia de Paris le 9 octobre prochain.
Avez-vous des spectacles à nous suggérer cette semaine, Daniel? Je vous prends à brûle pour point, oui, comme absolument. Ça. Hein? Non, mais c'est, ben, est-ce que c'est fini les Franco ou
non,
c'est encore...
Non, ça dure toute la semaine et je n'ai pas vraiment regardé l'horaire présentement. Là. Je sais qu'il y a quand même
alors, si jamais quelqu'un va voir les spectacles, vous nous en donnerez des nouvelles.
Oui,
merci beaucoup. Mais c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci, Daniel Lachance. On a hâte de revoir Serge Bradet, qui devrait être de retour avec nous la semaine prochaine. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis bonne journée.
Bonne journée.